demande de porter le masque. C'est pas un effort incommensurable. Bon, c'est sûr qu'il fait chaud, on préférait ne pas en mettre. S'il faut en mettre un, j'en mets un.
Après Bruxelles, après Madrid, Paris rejoint le bal des capitales masquées. Port du masque obligatoire dans certaines rues à partir de maintenant. On y rejoint Victor Dolande dès le début de ce journal. Le masque qu'il va falloir effectivement porter sous une chaleur encore écrasante. 15 départements toujours en alerte rouge. Et même le télétravail n'arrange pas toujours les choses.
J'essaie de faire attention à bien ventiler l'ordinateur pour pas qu'il surchauffe. Je me suis déportée dans des pièces un peu plus fraîches. Le plus clair du temps dans ma chambre. C'est pas hyper confort, mais au moins on est au frais.
Dans ce journal, nous serons aussi en direct avec la préfète de Lozère. Où en est-on de la rave party qui rassemble plusieurs milliers de personnes ce matin encore sur le Cosmé-Jean? Les dernières précisions sur la mort de 6 Français hier dans une attaque au Niger. Nous irons encore à Beyrouth voir comment les 250 millions d'euros d'aide internationale sont accueillis. Et puis à l'île Maurice, où les habitants s'organisent eux-mêmes pour protéger la mangrove face à la marée noire en cours.
On ne peut pas compter que sur les autorités ou de l'aide. On doit se débrouiller comme on peut. C'est un cauchemar.
Votre invité politique après ce journal, Sébastien.
L'épidémie, l'aide apportée au Liban, la relance économique. Que propose la France insoumise? Le député du Nord Urgo, Bernalicis, est mon invité dans un quart d'heure. Très belle matinée avec nous sur Europe 1. Il est 8h01.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
La France a connu la semaine dernière une hausse de 30% des cas recensés de coronavirus. L'Agence régionale de santé d'Île-de-France appelle à une prise de conscience pour éviter une deuxième vague. Et comme Biarritz, Tours ou Lille, Paris impose à son tour le port du masque dans certaines rues. On va en donner quelques-unes, les secteurs de Bercy, du Sacré-Cœur ou encore les quais de Seine. Bonjour Victor Dolande.
Bonjour Théo.
Vous êtes, vous, rue du Commerce, dans le 15e arrondissement, c'est l'un des axes concernés. Question Victor, y a-t-il des panneaux de signalisation? Parce que ça ne va pas forcément être facile de s'y retrouver.
Alors non, aucun panneau dans toute la rue du Commerce. Et c'est d'ailleurs ce qui pose problème ce matin, le manque d'informations. Louis part travailler sans masque, il ne le supporte pas trop avec la chaleur, mais quand je lui apprends que c'est désormais obligatoire, il promet de le faire.
Je trouve que c'est embêtant de le porter à chaque fois parce qu'on étouffe. Avec cette chaleur, cette canicule, on étouffe. Je vais quand même le porter, parce que si c'est obligatoire, je le porterai.
Elle est perdue, mais disciplinée.
Je me posais justement la question de savoir est-ce que j'étais dans une rue où il est obligatoire de porter le masque. De toute façon, je ne sais pas quelle est la bonne solution. On me demande de porter le masque, ce n'est pas un effort incommensurable. Bon, c'est sûr qu'il fait chaud, on préférait ne pas en mettre. S'il faut en mettre un, j'en mets un. Ça, il n'y a pas de problème, j'en ai toujours dans mon sac. Bon, voilà, c'est sûr, mais il faut le faire.
Mathias se balade avec ses deux petits garçons, masque sur le visage. Il vit en Allemagne et ne comprend pas très bien les règles françaises.
C'est pas toujours très clair parce qu'on voit dans la rue, il y en a qui en portent, qui n'en portent pas. Des fois, ça manquait un petit peu de clarté. En France, on l'a trouvé.
Dans le doute, il le porte tout le temps, mais l'impression de ce touriste allemand, difficile de ne pas la partager ce matin. J'y croisais encore beaucoup de monde sans masque. Un petit rappel aux réfractaires et aux étourdis. Si vous ne respectez pas cette obligation, vous risquez une amende de 135 euros.
Victor Dolande en direct de la rue du Commerce dans le 15e arrondissement de Paris.
Et face à la hausse des contaminations, le rebond redouté de l'épidémie, c'est un rassemblement qui inquiète et qui met en colère aussi les autorités du département de la Lozère. Plusieurs milliers de personnes regroupées depuis samedi soir pour une rave party sur la commune d'Ur-la-Parade, c'est sur le Cosmé-Jean.
Bonjour Valérie Hatch.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct ce matin sur Europe 1. Vous êtes la préfète de Lozère et vous indiquiez compter encore près de 5000 personnes sur place hier soir. Quelle est la situation ce matin?
Les 5000 personnes sont restées cette nuit, il n'y a pas eu d'incident.
Elles sont toujours là.
Tous les services de l'État sont mobilisés pour à la fois encadrer, verbaliser et puis accompagner cette manifestation qui a été très brutale et vécue comme telle par les Lozériens.
Il y a un risque sanitaire évident au vu de ce que vous avez aperçu sur place ce week-end.
Un risque, pardon ?
Sanitaire, en termes de
sanitaire,
de cluster.
Forcément, en plus de ce que l'on doit gérer habituellement pour ce genre d'événement, pour les rave parties qui en soi posent beaucoup de difficultés, on est sur un terrain qui est, vous avez parlé de canicule, où il y a des risques d'incendie extrêmement importants. Et puis en plus, effectivement, on se pose des questions sur le regroupement d'autant de personnes par rapport au Covid.
Aucune règle n'est respectée dans ce rassemblement ?
Pas forcément au mieux. En tout cas, j'ai pris un arrêté dès hier soir pour imposer le port du masque. J'ai fait livrer 15 000 masques immédiatement hier quand ils sont arrivés, ainsi que du gel hydroalcoolique.
Madame la préfète, voilà, il y a une question qu'on se pose forcément ce matin. Vous dites que les autorités ont fait livrer des masques. Il y avait 5000 personnes hier soir. Elles sont encore là ce matin. De quels moyens dispose l'État pour mettre fin ou accompagner la fin d'un rassemblement pareil?
Écoutez, de tous les moyens qui sont à notre disposition, en tout cas, il y a un dispositif gendarmerie extrêmement étoffé. Nous verbaliserons tout ce qui pourrait l'être, parce que les agriculteurs ont quand même très mal vécu cette arrivée, qui piétine un terrain agricole où pèsent habituellement les
brebis. Pourquoi ne pas être intervenu pour mettre fin à ce rassemblement ce week-end?
Parce que les effectifs, nous avons été surpris par cette arrivée massive et nous n'étions pas en capacité de faire face à une arrivée aussi importante en très peu d'heures.
Merci Madame la préfète du département de Lozère, Valérie Hatch. Merci d'avoir été en direct sur Europe 1 ce matin dans le journal de 8h.
Il est 8h07, la suite du journal sur Europe 1. Sébastien Krebs, Théo Manval.
Rouge et orange dominent toujours la carte météo France de l'Hexagone. 15 départements restent en alerte maximale à la canicule, 54 en vigilance renforcée. Et sous ces températures écrasantes, il y a le port du masque, il y a le travail en extérieur, on vous en a parlé. Mais il y a aussi le télétravail qui n'est pas toujours une parade quand l'ordinateur surchauffe déjà des pièces exiguës en pleine ville. Élise Dangean.
C'est vite insupportable. Et puis même, je trouve que quand il fait trop chaud, la concentration n'est peut-être pas complètement optimale.
Edia l'a constaté ces derniers jours, canicule et télétravail ne font pas bon ménage quand on vit en appartement. Et qui plus est, qu'on est enceinte, le ventilateur acheté l'an dernier n'y fait rien. Cette salariée a donc dû mettre en place tout un tas d'astuces plus ou moins confortables.
Je me suis déportée dans des pièces un peu plus fraîches. Le plus clair du temps dans ma chambre. En tant que bonne parisienne, je n'ai pas de bureau dans ma chambre. Donc je suis obligée de me mettre dans mon lit pour travailler. C'est pas hyper confort, mais au moins on est au frais. J'essaye de faire attention à bien ventiler l'ordinateur pour pas qu'il surchauffe, quoi. Je bois beaucoup, je n'ouvre plus les fenêtres, et puis une petite douche le matin, une le midi, ça fait du bien.
Dans l'entreprise d'Edia, pas de disposition particulière pour les télétravailleurs, juste un mail avec quelques recommandations pour éviter le coup de chaud. Mais la jeune femme l'assure, si ça devient trop compliqué à gérer, elle demandera à revenir dans les murs pour pouvoir profiter de la clim.
Reportage Élise Dangean.
Europe 1. À 8h08 sur Europe 1, vous restez avec nous dans un instant. Point complet de ce que l'on sait ce matin sur la mort de 6 Français et de leur guide hier après-midi au Niger. A tout de suite.
Il est 8h09, la suite du journal. Théo Manval, Sébastien Krebs.
Emmanuel Macron réaffirme la détermination de la France à combattre les groupes terroristes au Sahel. Il dénonce un attentat qui a lâchement frappé hier au Niger un groupe de travailleurs humanitaires.
6 Français et leurs 2 guides nigériens ont été tués par des hommes armés dans le sud-ouest du pays. Plusieurs de ces Français seraient membres de l'ONG ACTA, présente depuis des années au Niger. L'attaque a eu lieu dans la zone de Kouré. Emmanuel Duteil, quand sait-on exactement ce matin?
Alors déjà, cette zone est connue pour abriter les derniers troupeaux de girafes d'Afrique de l'Ouest. C'est une véritable attraction dans le coin. Même si c'est une zone dangereuse, ce n'est pas une zone interdite par exemple par la France. C'est une zone qui était en orange sur le site du ministère des Affaires étrangères. L'attaque a eu lieu en fin de matinée hier. Les Français et leurs accompagnants, un chauffeur et un guide, étaient dans un 4x4 de l'ONG Actel. La plupart des victimes auraient été abattues par balles. On voit des impacts de balles justement sur la voiture restée. Une femme qui aurait réussi à s'enfuir aurait été rattrapée et égorgée. C'est en tout cas ce que laissent entendre des sources nigériennes. La France est pour le moment restée floue sur les circonstances de ce drame. Les assaillants seraient venus à moto à travers la brousse et auraient attendu l'arrivée des touristes pour tenter de retrouver les assaillants. L'armée nigérienne a quadrillé la zone du crime. La zone a aussi été survolée par des avions de chasse français. Il s'agit de la première attaque visant des Occidentaux dans cette zone depuis qu'elle est devenue une attraction touristique, c'est-à-dire depuis environ une vingtaine d'années.
Les dernières précisions avec vous, Emmanuel Duteil.
Bonjour Christophe Rouillon.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct. Vous êtes le maire de Koulène dans la Sarthe et votre commune est jumelée avec la commune de Kouré au Niger, un partenariat qui dure depuis 2008 et vous êtes en contact étroit avec le maire de Kouré sur place. Que vous dit-on là-bas de ce qui s'est passé?
Le maire de Kouré au Niger, Hassan Mamadou, est très choqué par l'attaque lâche qui s'est produite hier. J'ai eu un contact hier soir, cette nuit, avec lui, et il ramenait les corps vers Niamey. Le moral est au plus bas.
On l'a dit, c'est une zone qui était déconseillée, mais pas interdite. Ça vous a surpris aussi dans cette zone qui est réputée calme entre guillemets du Niger?
C'est un secteur très, très calme du Niger. Il n'y a jamais eu d'incident depuis de mémoire. C'est une zone qui n'était pas recommandée, sauf bien entendu déplacement pour motif impérieux, mais il n'y avait pas de raison de s'inquiéter particulièrement. Et malheureusement, les travailleurs humanitaires qui étaient encadrés par le président de l'association des guides de protection des girafes blanches de la région de Kouré se sont déplacés en toute confiance dans cette région.
Il y a des groupes terroristes dans la zone des trois frontières, celle avec le Burkina Faso, celle avec le Mali. C'est ce qu'il faut redouter selon vous? Il n'y a pas eu de revendication à ce stade?
Malheureusement, oui. Et c'est vrai que nous avons eu des élus qui se sont rendus sur place, mais depuis plusieurs années, nous ne sommes pas rendus dans cette région du Niger. Je n'y suis d'ailleurs jamais allé pour des raisons d'agenda, mais aussi également des raisons de sécurité. Mais nous étions en contact permanent avec le maire. Ce sont des élus, ce sont des populations extrêmement pacifiques. Et qui sont vraiment très hostiles à ces organisations terroristes. Donc voilà, on est très choqués, d'autant plus que les personnes qui ont été assassinées sont des jeunes.
Que vous a-t-il dit justement du profil des victimes?
Malheureusement, la réalité est terrible, injuste, cruelle, ce sont des jeunes.
De quel âge?
Je pense une vingtaine d'années. J'ai eu malheureusement accès aux photos.
Qui sont tous des humanitaires français?
Oui, malheureusement, ce sont des jeunes engagés. C'est vraiment terrible d'être dans une situation comme celle-ci. Ce sont des gens qui aussi étaient actifs là-bas pour agir dans une région les plus pauvres de l'Afrique. Ils étaient aussi partenaires de projets de coopération décentralisée, comme celui que nous menons depuis 12 ans pour amener l'eau à Kouré. C'était des jeunes aussi qui agissaient, je crois, pour la prévention du coronavirus. Nous n'avons pas la confirmation totale, mais je pense malheureusement qu'ils étaient très jeunes.
Merci beaucoup Christophe Rouillon, maire de Coulaines dans la Sarthe, ville qui est donc jumelée avec Kouré au Niger où a eu lieu cette attaque. Merci d'avoir été en direct sur Europe 1 ce matin. À l'étranger, toujours nouvelle nuit de manifestation au Liban où un deuxième ministre a présenté sa démission. Hier, présenté aussi des excuses à la population pendant que la conférence internationale des donateurs se mettait d'accord pour une aide d'urgence de 250 millions d'euros. Elle devra être versée, selon les mots choisis, directement à la population. Visiblement agréablement surprise par cet élan. Reportage à Beyrouth, Nicolas Feldman.
Ouf, that's a lot of money.
250 millions d'euros pour Youssef, cela fait beaucoup d'argent. Il est bénévole dans une ONG de la capitale. Et quand on lui demande où doit aller en priorité cette aide, il désigne devant lui les fenêtres sans vitres d'un immeuble.
On a vraiment besoin de matériaux pour reconstruire les maisons, remodeler Beyrouth. De la nourriture, on en a. Les gens à Beyrouth sont forts. Ils ont des maisons détruites, donc on doit les aider à reconstruire tout cela.
Mais pour financer la reconstruction, la trentaine de bailleurs de fonds prévient, l'aide doit aller directement à la population avec, précise-t-il, un maximum d'efficacité et de transparence. Joseph manifeste depuis deux jours contre cette classe politique qu'il qualifie comme tant de Libanais de corrompus. Il n'en attendait pas moins.
On ne veut pas qu'ils le donnent aux politiciens. On veut que des personnes de ces États, comme l'Amérique et la France, qu'ils viennent ici, qu'ils regardent, et qu'ils soient présents sur tout dollar ou tout euro qui va être investi sur les places.
Des réformes pour plus de transparence, c'est aussi ce qu'ont réclamé les bailleurs de fonds pour débloquer une autre aide bien plus importante, celle-ci. 11 milliards de dollars promis il y a deux ans pour relancer l'économie libanaise. À Beyrouth, Nicolas Feldman, Europe 1.
Et en Biélorussie, cela tombe à l'instant. L'Agence nationale d'État confirme la victoire du président Loukachenko à la présidentielle d'hier soir. Présidentielle remportée avec plus de 80% des voix. Des manifestations d'opposants ont à nouveau eu lieu cette nuit à Minsk.
On termine ce journal en prenant la direction de l'île Maurice, où les habitants tentent de lutter contre la marée noire qui ravage l'un de leurs joyaux.
L'état d'urgence environnementale a été décrété. Ça fait maintenant plus de deux semaines qu'un vraquier qui s'est échoué sur les récifs répand une partie de ses 4000 tonnes de fioul dans l'océan à une centaine de mètres des côtes. Il menace maintenant ce navire de se briser en deux, d'inonder la mangrove de tout son carburant. Sans moyens techniques, des milliers de Mauriciens se sont donc démenés tout le week-end pour tenter de protéger comme ils le peuvent leur littoral. Connie tient une auberge à Maïbourg sur la côte.
un cauchemar. C'est une substance noirâtre, épaisse, avec les gants que je portais hier pour pouvoir enlever. C'est chaud, c'est du carburant. On ne peut pas compter que sur les autorités ou de l'aide. On doit se débrouiller comme on peut. Il y a beaucoup de Mauriciens, en fait, qui sont venus pour voir l'ampleur des dégâts et puis de ceux qui sont venus pour donner un coup de main. Toute la journée, hier soir aussi, jusqu'à 10h du soir, ils ont travaillé sur le front de mer. Alors, les gens portent des masques, ils portent des bottes. Ils ont certains qui ont eu des équipements de protection. On sait que ça va prendre du temps. Alors, on a pris sur nous hier, on a commencé à enlever. Et croyez-moi, ça nous a fait du bien de revoir le sable devant chez nous. Toute l'île Maurice s'y met. C'est extraordinaire, cette solidarité-là. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais c'est un travail colossal. C'est incroyable.
Connie, habitante de l'île Maurice et bénévole donc sur la côte, jointe pour Europe 1 par Caroline Baudry. Un tout dernier mot de football pour vous signaler la victoire des joueuses de l'Olympique Lyonnais qui remporte la Coupe de France féminine face aux Parisiennes du PSG.
Et voilà pour un journal complet signé Théo Manval. Le prochain journal à 8h30.